européenne, c'est 27 pays. Et donc, 27 manières diverses de concevoir le rapport de l'État à l'aspect religieux de la société. Pourtant, l'Union européenne, c'est aussi des institutions qui légifèrent pour l'ensemble des habitants de ces 27 pays. Des institutions qui prennent des mesures concrètes parfois. Ainsi, le 1er décembre dernier, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, plus connu sous le nom de traité de Lisbonne, est entré en vigueur. Il contient un article qui s'intéresse plus particulièrement au dialogue avec les religions. Louis-Léon Christians, titulaire de la chaire de droit des religions et président du master pluridisciplinaire en sciences des religions de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, nous aide à décrypter la situation actuelle.
L'Union européenne, à l'origine, c'est un projet économique, un projet de marché commun, et donc c'est un projet qui ne va pas s'intéresser directement à la question religieuse. Et c'est seulement avec le déploiement progressif de l'Union européenne comme un projet politique que la question de relations entre l'Union et les religions, ou le statut des religions dans l'Union, va se poser progressivement. Et le premier débat est celui sur l'adhésion par l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, dans lequel on voit, mais en tout cas une première chose, c'est que l'Union européenne entend respecter les principes de liberté religieuse, parmi lesquels, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, eh bien, se trouve l'impartialité des États et des organisations internationales envers les religions. Donc impartialité, pas laïcité. Et le deuxième débat, c'est celui de l'article 17 aujourd'hui du traité sur le fonctionnement de l'Union, dans lequel, pour la première fois, l'Union prend position spécifiquement sur le statut des religions pour dire qu'elle respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. Ce qui veut dire que l'Union va faire jouer le principe de subsidiarité et dire que le régime des cultes, eh bien, est celui de chaque État membre.
Cet article 17 est donc une première, car il constate la présence et l'importance des religions dans la vie de la société. Mais l'intérêt de cet article ne réside pas que dans cette reconnaissance, il va plus loin.
Une autre nouveauté de l'article 17, c'est son alinéa 3, qui prévoit qu'en reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ses églises et organisations. Et donc c'est la première fois, c'est le texte le plus récent, c'est la première fois qu'on dispose d'une affirmation, si vous voulez, plus précise et qui concerne directement l'Union dans ses relations avec les églises et les organisations philosophiques. Pour dire donc que ce dialogue ouvert, transparent et régulier va être mis en place.
Cette nouveauté du traité de Lisbonne est particulièrement intéressante au vu des situations les plus diverses que connaissent les 27 pays de l'Union européenne. Car certains, comme la France, vivent sous le régime de la laïcité. D'autres reconnaissent une religion d'État ou en privilégient une de manière plus particulière. Le professeur Christian s'évoque ces différences et la manière de se situer des institutions européennes.
C'est vrai qu'il y a une grande diversité des régimes nationaux en Europe, puisqu'on part, si je puis dire, des églises d'État qui existent encore en Angleterre ou dans certains pays nordiques. Et puis aussi penser au statut très spécifique ou très particulier de l'Église orthodoxe dans plusieurs États comme la Grèce ou de nouveaux États orthodoxes qui sont entrés dans l'Union. On a des régimes concordataires qui reconnaissent aussi, pas un statut nécessairement d'Église d'État, mais un statut particulier, en quelque sorte privilégié à l'Église catholique dans un certain nombre d'États comme l'Italie ou l'Espagne, malgré l'évolution récente du système espagnol. Puis on a des États qui affirment une séparation, alors plus ou moins formellement, hein, comme la France, mais qui respectent évidemment tous, qui sont amenés ou obligés de respecter tous les principes internationaux de liberté religieuse. Et la Cour européenne des droits de l'homme, donc du Conseil de l'Europe à Strasbourg, a déjà indiqué depuis le début que aucun régime des cultes, quelle que soit leur diversité, n'était en soi contraire à la Convention européenne, qu'il fallait voir dossier par dossier, pièce par pièce, législation par législation, mais qu'aucun régime, qu'il soit église d'État ou de laïcité radicale, n'était en soi problématique.
L'article 17 du traité de Lisbonne, pour en revenir à lui, préconise un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les églises. Un dialogue qui, dans une certaine mesure, existe déjà. En effet, depuis la présidence européenne de Jacques Delors, une certaine interaction avec les groupes religieux a déjà lieu, à travers une dimension informative de la part de la Commission européenne envers les grandes religions. Mais avec le nouveau traité, c'est la question de la représentativité des religions qui se pose. qui seront les interlocuteurs catholiques de l'Union européenne, par exemple ?
L'Église catholique est représentée directement auprès de l'Union européenne par le nonce qui représente le Saint-Siège auprès de l'Union. Dispose aussi de diverses agences, notamment la COMEC qui représente les épiscopats européens, mais il y a aussi une autre agence, la CCCE, qui représente les conférences épiscopales européennes. Donc la représentation diplomatique classique se fait par le biais du Saint-Siège et donc l'annonciature, mais différents autres organes par lesquels les évêques ou les conférences épiscopales européennes manifestent leurs intérêts sont présents à Bruxelles. Il y a d'autres organisations encore de l'Église catholique, notamment le CIP, des organisations jésuites. Donc il appartient pour le moment à la Commission européenne d'inviter globalement dans son processus actuel d'interaction qui elle veut comme représentant de l'Église catholique. Donc c'est parfois des représentants de la COMEC, ça peut être des évêques particuliers selon leurs intérêts sur les champs qui sont évoqués.
Une question se pose cependant. À quoi est due cette attention de l'Union européenne pour les questions religieuses ? Dans les quêtes identitaires des personnes et les groupes, l'aspect religieux prend aujourd'hui une place qui ne saurait être niée. Quels sont alors les enjeux de ces démarches pour les institutions européennes ?
La question est de savoir aujourd'hui si le retour que les États et que l'Union font vers les religions est un retour purement stratégique pour voir le projet de l'Union soutenu par des églises, ou s'il s'agit vraiment de prendre en considération la diversité des formes de vie ou des espérances des citoyens de l'Union. Dans ce cadre-là, un des dossiers particulièrement délicats, c'est celui de la législation européenne de lutte contre les discriminations. L'Union, pour le moment, semble d'accord avec le fait qu'une organisation à tendance religieuse puisse légitimement faire des distinctions selon l'appartenance religieuse. En revanche, l'ensemble des autres critères de distinction, même s'ils sont fondés sur une tradition, sur des enseignements, sur la doctrine de cette religion, seraient potentiellement condamnés.